Mondial Sport sur RFI. Olivier Prom.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport, du résultat et du reportage. C'est la recette, comme chaque week-end. Le Maroc d'abord, nous irons dans quelques secondes à Casablanca pour connaître le résultat de la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions qui s'est terminée il y a moins d'une heure entre le Raja et le Zamalek du Caire. Direction l'Espagne ensuite, Pierre Chaperon est là déjà pour revenir sur les défaites du Real et du Barça hier et sur les jolis débuts de saison de Villarreal, de Cadiz ou encore de Retafé, à l'opposé du fiasco Valence. Nos reportages du soir nous emmèneront en Argentine à la rencontre d'une femme commentatrice, au Brésil où le retour de Robinho à Santos se complique, et au Niger où un ouvrage retrace l'histoire du football nigérien. Nous écouterons ensuite longuement la championne du monde ivoirienne Muriel Aouré, nommée cette semaine ambassadrice de l'UNICEF dans son pays. Enfin, nous reviendrons sur le forfait de l'Afrique du Sud dans le rugby championship, le championnat de l'hémisphère sud en quelque sorte, qui débute dans deux semaines. Toujours Hélène Avril aux commandes, c'est l'heure de mettre le turbo. Allez, le football donc encore et toujours, et au Maroc, comme hier, pour commencer, eh ben oui, puisqu'à Casa, on vous l'avait dit, et on n'est pas du genre à mentir, s'est déroulée ce soir la deuxième demi-finale aller de la Ligue africaine des champions, après le succès hier d'Al Ahly au Wydad 2-0, c'était un nouveau duel Maroc-Égypte. Le Raja, trois fois titré dans la compétition, recevait le Zamalek, cinq fois vainqueur. Bonsoir Anas Yassine.
Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous.
Au final, Anas, côté résultat, bah, c'est kiff-kiff, ou presque, 1-0.
Oui, tout à fait, victoire égyptienne. Juste avant de revenir sur le film du match rapidement, Olivier, quand on voit les matchs d'hier et de ce soir, eh bien, on voit que les entraîneurs d'El Ahly, hier, et du Zamalek, ont bien étudié les équipes marocaines. Il est vrai, quelques absences, ça et là, mais n'empêche, on a vu le métier des équipes égyptiennes, Al Ahly, qui détient le record de victoire en Ligue des Champions, et puis le Zamalek du Caire aujourd'hui, même si, eh bien, c'est un joueur marocain qui s'est chargé de battre le club casablancais, Achraf Bencherki. Eh bien, sachez que c'est un ancien joueur du Wydad de Casablanca, l'éternel rival du Raja. Eh bien, à l'issue d'un très joli mouvement côté droit, il a été à la conclusion de la tête, une très belle détente d'ailleurs, aidé par une sortie hasardeuse du gardien du Raja. Le Raja sonné, eh bien, est resté jusqu'à la 42e minute pour réagir, la seule véritable occasion. La deuxième mi-temps, quelques changements opérés par l'entraîneur. Et puis, à partir de la 65e minute, on a vu un match à sens unique. Le Raja est parti à l'abordage, mais le gardien et les défenseurs, eh bien, se sont chargés de repousser toutes les actions. 1-0 à l'arrivée. Très bon résultat pour le Zamalek, qu'il va falloir confirmer, même si les Rajaouis estiment qu'ils ont encore des chances pour le match retour.
Ah oui, rendez-vous dans 8 jours pour les matchs retour. Vous y croyez?
Bah, c'est très mal parti. Il faut être sérieux. Même
2-0
si
hier,
tout est possible
en
football. Ouais, une expulsion, un pénalty qui vous relance, ou bien les équipes égyptiennes qui crient à la victoire trop tôt. Même si on le sait, les clubs kérotes ont la réputation d'être intraitables à domicile, Olivier.
Eh ben écoutez, on sera là dans 8 jours, et vous aussi peut-être, pour donner le compte-rendu de ces demi-finales retour. Allez, merci Anas, en tout cas du côté de Casablanca. On file en Espagne, on vous l'avait promis hier, 6e journée de la Liga ce week-end, direction Madrid, où l'on retrouve notre correspondant. Bonsoir Pierre Chaperon.
Bonsoir Olivier.
Pierre, d'abord le tout chaud, hein, ça vient de tomber, il y a un nouveau leader depuis une heure maintenant, en gros, c'est la Real Sociedad qui a battu à Séville le Betis 3-0.
Oui, victoire claire, nette, sans bavure de la Real Sociedad. Un homme dans ce match, Olivier, Mikel Oyarzabal. C'est le capitaine et le leader technique du club de San Sebastián. Il donne la passe décisive sur l'ouverture du score de Porto avant la mi-temps. Il marque le penalty du 2-0. Super joueur, doué techniquement, intelligent tactiquement. C'est le Belge Janouzage, j'arrive pas à le dire, hein. C'est Janouzage qui a marqué le troisième but d'un super tir croisé. La Real Sociedad est leader du classement avec 11 points, à égalité avec la Villarreal.
Sinon, Pierre, parce que c'est ce qu'attendent nos auditeurs principalement, hein, samedi, catastrophique pour les deux locomotives de ce championnat. On l'a dit, défaite pour le Barça et le Real. Mais le plus inquiétant, c'est le match du Real Madrid, hein, battu à domicile par le promu Cadix 1-0. On rappelle que la Ligue des Champions démarre mardi, hein, c'est cette semaine.
Réunion de crise déjà ce matin du côté de Valdebebas. Manque d'intensité, pas le bon comportement. C'est ce qu'aurait reproché Zidane à ses joueurs, selon Marca. Attention, hein, vous le disiez, le Real qui va rentrer donc en Ligue des Champions, le Shakhtar Donetsk, ça sera mercredi. Et puis surtout le Classico à Barcelone, samedi, 16h, heure de Barcelone. Rien n'allait hier dans le jeu. Trop de centres qui ne trouvent pas receveur, peu d'idées, 2 tirs cadrés seulement contre 5 pour Cadix. Écoutez Thibaut Courtois, il reconnaît le mauvais match de son équipe.
Nous n'avons pas été bons, et quand tu n'es pas bon, ça ne va pas en défense, en attaque, partout. Oui, une défaite est toujours bien pour se réveiller, pour travailler encore plus, pour savoir ce que l'on a fait de mal et ce qu'il faut améliorer. Après, il ne faut pas donner plus d'importance que ça en a. Je crois que c'est une mauvaise défaite, surtout la maison. Maintenant, vient un enchaînement de matchs, il va falloir bien jouer contre le Shakhtar. Gagner le match et faire le plein de confiance pour aller ensuite au Camp Nou.
Blessé à la cuisse hier, Sergio Ramos, c'est incertain pour les prochaines échéances. Hommage, Olivier, quand même, à Cadix. Première victoire de l'histoire du club andalou face au Real. Hier, ce sont eux qui ont eu le plus d'occasions de but, de corner, de duels gagnés. Le score aurait pu être plus large. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Zidane.
Ah oui, quand même. Match catastrophe pour le Real Madrid. C'est à peine mieux pour le Barça, hein. Succès de Retafe 1-0 contre les Blaugrana, et Antoine Griezmann en prend forcément encore pour son grade ce matin.
Alors on va lire la presse, hein, ensemble. Indéfendable pour le quotidien catalan Sport, inacceptable pour AS, ajoutant que son match est à l'image de son séjour barcelonais, flou, insignifiant. Rien que ça, bref, Griezmann en prend pour son grade, lui qui aurait pu ouvrir le score à la demi-heure de jeu, mais qui a trop levé sa frappe, une erreur de communication, une de plus pour le Français. Sa sortie sur son bon positionnement cette semaine a été très commentée en Espagne, et la presse ne l'a pas loupé aujourd'hui.
Et de Cador qui ne sont franchement pas au mieux au moment de lancer leur campagne de Ligue des Champions. Un mot des Africains de Retafe, Pierre. Le Camerounais Alanyom est au cœur d'une petite polémique, hein, chez vous.
Oui, comme on entend tout maintenant dans les stades avec le huis clos, on l'a entendu invectiver l'attaquant d'origine bissau-guinéenne, le Barcelonais Ansu Fati, et il aurait insulté aussi l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, qui s'en est ému après la rencontre. Niom, comme son coéquipier, le défenseur togolais Djéné, auteur d'un bon match contre le Barça hier, le FC Barcelone jouera contre les Hongrois du Ferencváros mardi en Ligue des Champions.
Bon début de saison pour Cadix, on l'a dit, et Retafe.
Oui, bien évidemment. 10 points en 6 matchs pour Cadix, 10 en 5 pour Retafe. C'est bien. Alors pour Retafe, c'est pas une nouveauté. Tous les ans, ils sont candidats à l'Europe. C'est l'équipe qui joue le plus dans la surface adverse depuis le début de la saison, même si le club a cette image, et a raison hein, d'ailleurs, d'être une équipe rugueuse. Pour Cadix, ça reste encore une équipe très jeune, qui ne marque pas beaucoup de buts, qui opère en contre-attaque. Et puis, si la réussite de ces deux clubs est rafraîchissante, elle interroge quand même un peu, Olivier, sur le niveau global du championnat d'Espagne qui, à mon sens, est en train un peu de descendre d'un cran.
Villarreal s'est adjugé le derby de la région de Valence cet après-midi. C'est pour ça que Villarreal est si haut au classement.
Oui, Villarreal deuxième. Deux anciens valencians qui donnent la victoire 2-1 contre Valence. Paco Alcácer sur pénalty et surtout cette frappe de Dani Parejo qui vient se loger sous la barre. Ont donné donc la victoire au sous-marin jaune. C'est Guedes qu'on connaît bien à Paris, qui a signé l'unique but valencien dans une partie globalement dominée par le Villarreal d'Unai Emery. Villarreal, je le disais, est deuxième, Valence 13e.
Valence en plein marasme. Hein. Geoffrey Kondogbia a allumé carrément son président cette semaine sur les réseaux sociaux.
Oui, c'était jeudi sur Instagram, votre réseau social préféré, Olivier, je le sais. L'international centrafricain s'en est pris à son président. Et alors il dit, après avoir détruit un projet ambitieux, tu t'es aussi permis de tromper ton entraîneur et maintenant moi. En fait, l'ancien joueur de Monaco voulait partir. Il pensait pouvoir partir. On parlait de lui notamment à l'Atlético de Madrid. Au final, ça ne s'est pas fait. Au final aussi, il va écoper d'une amende selon la presse espagnole.
Et au final, ça va très très mal sur Valence. On aura l'occasion d'en reparler. Pierre, on est un peu pris par le temps, mais c'est vrai que les Valencians et leur président et tout ça, ce sera sans doute un sujet pour les prochaines semaines, ce club qui va mal. Merci Pierre, hein, bonne fin
Merci,
de soirée.
Merci, bonne soirée.
Chez vous à Madrid, où j'espère il n'y a pas de couvre-feu. Ailleurs en Europe, en Angleterre, avec le joli coup d'Aston Villa ce soir, dans un match de haut de tableau à Leicester, les Villains se sont imposés 1-0 dans le temps additionnel. exceptionnel. 4 victoires en 4 matchs et une deuxième place à une longueur d'Everton, mais avec un match en moins. La mauvaise opération du jour, elle est pour Tottenham qui menait 3-0 après 16 minutes avant d'encaisser 3 buts de West Ham dans les 10 dernières. Score final 3-3, les Spurs sont 7e. En France, Lille prend la tête de la Ligue 1 ce soir à l'issue de la 7e journée. Les Dogs ont remporté nettement le derby du Nord face à Lens. 4-0, ils comptent 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et Rennes. Les Lensois sont 4e à 4 longueurs. À noter également le succès de Lyon 3-2 à Strasbourg avec des buteurs africains, doublé du Camerounais Karl Toko Egambi et but du Zimbabwéen Tino Kadewere pour l'OL. Et puis le Sénégalais Habib Diallo et l'Ivoirien Jean-Eudes Aoulou ont marqué côté Strasbourg. Un tout dernier mot de foot sur le continent. On vous en a parlé hier, on vous donne les résultats ce soir. 0 spectateur et 0-0 dans le derby de RDC. Le classique de RDC plutôt, l'AS Vita Club de Kinshasa et le TP Mazembe. En file, football toujours, mais direction l'Amérique du Sud, l'Argentine en l'occurrence, qui a vécu une véritable révolution ces derniers jours. Derrière le micro, ou les micros, comme vous voulez, pour la première fois en effet cette semaine, à l'occasion des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, la sélection de Lionel Messi a été commentée par une femme. Un événement dans un pays secoué par d'importants mouvements féministes ces dernières années, et où le football est souvent considéré comme le dernier bastion machiste. À Buenos Aires, le reportage de Georges Quirino.
Avec le retour de Lionel Messi en Argentine en pleine pandémie, c'était l'autre grand événement en rapport avec la sélection, commenté dans tous les médias et même avec une bande-annonce.
Pour la première fois, une femme va commenter la sélection argentine à la télévision. Je repense à la petite fille que j'étais, celle qui est tombée amoureuse du foot contre vents et marées. C'est une fierté pour moi de montrer que le football l'est à tous et toutes, ici, à la télévision publique.
La voix d'Angela Lerena, celle qui accompagne désormais les Argentins lors des retransmissions télévisées de l'Albi Céleste, où elle assure le commentaire tactique, un domaine jusqu'à présent réservé à un ancien joueur ou journaliste masculin. Dans les rues de Buenos Aires, le visage de la commentatrice apparaît sur plusieurs affiches de promotion et fait réagir les passants.
Les commentateurs sont toujours des hommes. Pour moi, s'il y a une femme qui a la possibilité et la capacité d'être à cette position, je lui dis bienvenue.
Souvent, ils pensent que le fait d'être une femme signifie ne rien savoir du football. Cette nouvelle est selon moi un bon point de départ pour que les femmes puissent participer à tout.
Plus qu'un simple commentaire de match, donc, et malgré quelques réactions hostiles, surtout exprimées sur les réseaux, c'est une avancée sociale, symbolique pour Nemesia Hijos, anthropologue qui travaille sur les relations entre le sport et le genre.
Cela permet de voir qu'il y a d'autres mondes possibles. Comme on dit, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Cela permet de rompre les arguments et les représentations machistes et sexistes. C'est une conquête qui est sans aucun doute alliée avec l'ancrage des mouvements féministes qui ont atteint une massivité jamais vue auparavant. Grâce à cela, on peut s'incorporer des réclamations comme la place de la femme dans le sport.
Le mouvement Ni Una Menos contre les violences sexistes, les importantes mobilisations pour la légalisation, toujours débattue, de l'avortement, cette dynamique nationale et la pression de certaines figures ont permis des avancées significatives pour les femmes dans le football. Un championnat féminin professionnel, une sélection considérée, davantage d'espace médiatique. Angela Lerena, femme de terrain, journaliste reconnue, aura elle attendu 25 ans de carrière pour commenter l'Argentine de Messi.
Même si c'est une réussite individuelle, c'est une réussite atteinte grâce au collectif et qui va aider ce collectif à encore grandir. Cela me rend très fière. Moi, je vais pouvoir aider à ce qu'il y ait de nouvelles journalistes. Mes collègues font la même chose. Chaque fois qu'elles ont de la visibilité, elles poussent d'autres femmes à se lancer. C'est ce qui va transformer ce milieu.
Une transformation qui doit se faire en profondeur, assure la journaliste, par exemple en sensibilisant, c'est ce qu'elle fait dans certains clubs, les joueurs à la question de l'égalité des genres, ou en permettant aux petites filles de simplement accéder au football, un domaine encore exclusif aux garçons dans les écoles argentines. Georges Quirino, Buenos Aires, RFI.
Et pour la petite histoire, l'Argentine a gagné ses deux premiers matchs, dont celui de mardi dernier, 2-1 en Bolivie, dans la course à la Coupe du Monde 2022, hein, bien sûr. On part au Brésil à présent, pays voisin, à Santos précisément, à 70 km de Sao Paulo. Il s'agit de parler de l'affaire Robinho. Robinho, vous savez, cette ancienne star du club de Santos dans les années 2000, désormais en fin de carrière à 36 ans, il a signé un contrat cette semaine pour rejoindre le club de son enfance, plutôt, c'est mieux comme ça. Problème, il a été condamné à 9 ans de prison pour sa participation présumée à un viol collectif en Italie, à l'époque où il jouait à Milan. Robinho a fait appel de cette décision et Santos était favorable à son retour au bercail. La pression des sponsors a toutefois fait changer d'avis le club de Pelé, même si la plupart des supporters souhaitent toujours le retour de Robinho sur la pelouse de la Villa Belmiro. Explication et reportage à Santos, Martin Bernard.
Au début, c'était comme un conte de fées.
Maravilloso.
Merveilleux. C'est une sensation merveilleuse de pouvoir revenir au club de mon enfance. J'ai toujours rêvé d'être joueur de foot et c'est à Santos que j'y suis parvenu. Alors c'est un moment merveilleux.
Moment merveilleux.
Connu pour ses dribbles magiques, Robinho a connu la célébrité à Santos. Il a ensuite défendu les couleurs du Real Madrid, de Manchester City et entre autres de l'AC Milan. Mais en 2013, il est accusé dans cette ville italienne d'avoir participé à un viol collectif. La victime, âgée de 23 ans, porte plainte et Robinho écope 4 ans plus tard d'une peine de 9 ans de prison. Comme le procès en appel n'a pas encore eu lieu, le club de Santos et la plupart de ses supporters ne voyaient pas de problème au retour de Robinho.
Ça n'a rien à voir, il devrait jouer, il faut bien qu'il travaille. C'est un complot contre Santos. Quand il jouait en Turquie, personne n'a rien dit. Quand il jouait à l'Atlético Mineiro, personne n'a rien dit. Quand il joue à Santos, on veut lui faire des misères. Il n'y a rien de prouvé, il n'a pas eu de relation avec une femme dans une église, c'est des histoires. C'est une femme qui veut de l'argent, vous comprenez ?
Seulement, beaucoup de gens n'ont pas pris cette affaire à la légère. La décision du club de Santos a révolté une bonne partie de l'opinion publique. Les médias ont également publié des écoutes téléphoniques dans lesquelles Robinho justifie son comportement en termes crus. Pour les sponsors, ce fut la goutte qui a fait déborder le vase et ils ont menacé de rompre leur contrat avec Santos. Sous pression, le club a alors décidé de faire marche arrière.
Salut, c'est Robinho. C'est avec un grand pincement au cœur que je vous fais part de ma décision prise avec le président du club de suspendre mon contrat lors de cette période compliquée de ma vie. J'ai toujours voulu aider le Santos Football Club, mais si je complique les choses, il est mieux que je me mette en retrait et que je m'occupe de ma vie privée.
Paquito est un restaurateur célèbre à Santos. À sa table, Robinho et bien d'autres ont défilé de Pelé à Neymar, des joueurs qu'il connaît bien et qu'il apprécie. Mais quand les passions se déchaînent, il tente de faire la part des choses.
Je crois que Santos est allé un peu trop vite en besogne, car Robinho tomberait à pic pour Santos. Mais il faut tenir compte de la question morale. Je crois que pour l'instant, ils ont trouvé une bonne solution en raison de la pression du public, de la pression des sponsors, et on dépend des sponsors. Je crois qu'ils ont trouvé la meilleure solution.
Le dossier Robinho n'est donc pas clos, mais l'issue du conte de fées est encore bien incertaine. Martin Bernard, Santos, RFI.
En tout cas, la polémique au sujet de Robinho ne semble pas avoir perturbé les joueurs de Santos, puisque l'équipe Santista a battu Coritiba à l'extérieur ce week-end de 2-1. Santos qui se retrouve dans le peloton de tête du championnat. Et si l'on parlait maintenant de l'histoire du football nigérien, ça tombe bien, c'est le titre d'un livre dont la présentation a eu lieu hier samedi au Centre Technique National de la Fenifoot à Niamey. Plusieurs sommités du football national étaient là, bien sûr, anciens joueurs du MENA, ex-dirigeants de la fédération, des entraîneurs des différentes catégories de l'équipe nationale, dont le français Jean-Michel Cavalier, récemment appointé en tant que sélectionneur DA. Bien sûr, présents aussi les responsables actuels de la Fédifoot, le ministre des Sports. Et parmi les journalistes, notre correspondant Ousmane Keta, déjà fan de ce livre qui retrace toute la vie du foot nigérien. Reportage.
Selon l'auteur de ce livre qui a réussi à réunir toutes les sommités, l'intérêt est de faire connaître davantage aux Nigériens leur football. Professeur Bourreïma Alfagado.
Après plusieurs décennies d'évolution du football nigérien, il faut vraiment apporter à la connaissance de la jeunesse
quels ont été les premiers acteurs et quels ont été les résultats qui ont été obtenus. C'est à partir de la connaissance du passé, c'est à partir des bilans de ce qui s'est passé dans le temps qu'on peut prendre un élan de rebondir et apporter des résultats satisfaisants.
Jusqu'à leur affiliation à la CAF et à la FIFA en 1962, les Nigériens ne s'intéressaient pas du tout à la pratique du football. Selon Youba Diallo, capitaine de l'équipe nationale du Niger de football, entre 1965 et 1911, c'est un domaine exclusivement réservé aux nationalités étrangères vivant au Niger.
Les clubs de football à l'époque, avant l'indépendance jusqu'en 1964, étaient constitués essentiellement de ressortissants des pays voisins, les pays de l'AOF. Le Nigérien ne jouait pas. Si tu fais du football, du sport, on te rit au nez. Et c'est pour ça que le premier gouvernement du Niger, le RDA, ils ont compris ça.
Le vernissage de cet ouvrage sur l'histoire du football nigérien a été l'occasion de savoir un peu plus sur l'origine de l'appellation MENA nationale du nom de l'équipe nationale de football du Niger. Son auteur, Ibrahim Nadjada, 71 ans, officier des eaux et forêts à la retraite, s'en explique.
En 1976, le gouvernement a décidé de changer tous les noms qui ne doivent pas être conservés. J'ai cherché des noms pour remplacer au moins le nom de l'équipe nationale. Quand j'ai proposé le MENA, tout de suite, le comité qui a été mis en place, ils ont retenu MENA. Et c'est la plus grande gazelle que nous possédons au garrot, la taille d'un âne, ce qui est important.
Ousmane Keta, Niamey, RFI.
C'est fini pour le football. L'athlétisme maintenant dans Mondial Sport. L'année 2020 aura été étrange pour nous tous, hein. Et notamment donc pour Muriel Aouré. Aucune course ou presque pour la championne du monde en salle du 60 mètres. Et surtout pas de jeu de Tokyo, dont l'Ivoirienne à 33 ans faisait l'objectif majeur de sa saison, le rêve d'un podium olympique. Mais Mademoiselle Aouré n'a pas perdu son temps. Elle vient d'être nommée cette semaine ambassadrice de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, dans la continuité d'un travail pour les enfants qu'elle avait déjà entamé en lançant sa fondation il y a 4 ans. Elle s'est confiée à Christophe Jousset dans un entretien réalisé il y a quelques jours. Muriel Aouré.
C'était un immense honneur pour moi d'être nommée ambassadrice d'UNICEF en Côte d'Ivoire. En tout cas, je m'engage pour faire la promotion et protéger les droits des enfants et des filles ici. C'est une cause qui est très proche de mon cœur, donc je sais que je ne vais pas courir pour le reste de ma vie, mais il faut au moins que je puisse aider la génération qui vient après. Il faut qu'il y ait de la relève aussi. Une fois que j'arrête de faire l'athlétisme, il faut aussi qu'il y a tellement de filles ici qui veulent faire du sport, qui veulent être au haut niveau, mais elles n'ont pas les moyens, elles ne savent pas comment faire, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas beaucoup de choses ici pour elles. Donc, à travers mes sponsors, à travers le partenariat que j'ai signé avec UNICEF et à travers le partenariat qu'on espère signer entre le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation pour faire quelque chose ici de très concret comme le sport-études.
Vous dites depuis longtemps que œuvrer pour les enfants, c'est ce qui vous tient le plus à cœur. Alors, d'où vient cette vocation ?
Oh là là, elle vient vraiment de ma mère. Hein. Ma mère m'a enseigné mes premières leçons de vie, l'amour du prochain, la solidarité, le don de soi. Donc, je remercie infiniment ma mère. C'est elle qui m'a inspiré cet amour pour les enfants et m'a appris de l'utiliser et de partager avec l'humanité.
Vous vous projetez déjà sur l'après-carrière, mais votre carrière n'est pas encore terminée.
Non, pas du tout.
Évidemment, pour vous quand même, la saison, comme pour les autres, la saison a été complètement bouleversée par cette crise sanitaire. Comment avez-vous vécu cette année ?
Oh là là, c'était une année très difficile pour nous, hein, pour moi, et je pense que pour tous les athlètes, c'est un peu pareil. On était tous bouleversés, complètement choqués. Moi, je vis et je suis basée aux États-Unis, à Miami Beach en plus, en Floride, où c'était un des endroits les plus attaqués par le Covid. Donc, on était restés confinés pendant des mois. On ne pouvait pas s'entraîner, c'était vraiment, ça faisait peur, mais le plus important, c'est que maintenant, tout va bien, les cas descendent. J'ai fait mon premier voyage depuis le Covid, parce que la dernière fois que j'étais sortie des États-Unis, c'était en février. Et nous voici maintenant en octobre, et c'est en octobre que j'ai pu sortir des États-Unis pour faire mon premier voyage et venir ici en Côte d'Ivoire pour ma nomination.
Je pense à Clarisse Agbenienou, la Française qui est quadruple championne du monde de judo et qui a raconté comment elle avait pleuré à l'annonce du report des Jeux.
Oui, bien sûr, hein, parce qu'on a tous, je pense qu'on a tous pleuré, on était tous déprimés. Moi, j'ai passé quelques jours au lit, vraiment, j'étais... Ça n'allait pas trop, quoi. Mais en tout cas, avec le support de ma famille, de toute mon équipe, je me suis remise et je dis bon, ok, je me remets au travail. J'ai décidé de m'engager, comme il n'y a pas de compétition cette année, m'engager un peu plus sur le côté social et vraiment focus sur ma fondation et UNICEF. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir être nommée ambassadrice et je compte faire beaucoup plus de choses pour la Côte d'Ivoire.
Vous avez eu 33 ans cette année. Est-ce que le report des Jeux d'une année n'est pas plus compliqué à gérer pour vous que pour la génération suivante ?
Pour moi, ça va. J'ai une très bonne équipe autour de moi. J'ai des médecins et des kinés et ma sœur et mon entraîneur. On sait comment se préparer, on sait comment faire pour être prête pour l'année prochaine. Donc, ça va aller.
Alors, l'année prochaine, 2021, quel est votre plan ?
Bien sûr, les Jeux Olympiques. On espère que tout va bien se passer avec le Covid. On espère qu'on va pouvoir faire des compétitions, qu'on va pouvoir voyager parce que nous aussi qui vivons aux États-Unis, on ne peut pas entrer en Union européenne. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut même pas aller entrer pour faire nos traitements. Donc, c'est un peu stressant. Mais j'espère que dans les mois qui vont venir, quelque chose va changer. Si on peut trouver un vaccin, ça sera super. Comme ça, on peut voyager sans trop stresser, mais moi j'ai été testée pour le Covid deux fois, non trois fois même, mais je suis négative, donc ça va. En tout cas, je suis contente.
Mmh. Mais l'année prochaine, c'est uniquement les Jeux ou il est possible, si évidemment le programme se déroule normalement, qu'on vous voit aux Mondiaux en salle, qu'on vous voit aux Championnats d'Afrique, non ?
Au championnat d'Afrique, oui. Au mondial en salle, je sais pas. Tout dépend. Je pense pas. Je sais pas. Je peux pas dire oui pour l'instant parce que tout dépend de la situation du Covid.
Est-ce que Tokyo est dans votre tête tous les jours actuellement ?
Bien sûr, je pense à Tokyo tous les matins et tous les soirs. Les Jeux Olympiques, vraiment, c'est super, quoi. La cérémonie d'ouverture, la course du 100 mètres, la course du 200 mètres, où je vais faire le 100 et le 200 cette année. Donc, j'ai hâte de m'aligner, quoi.
Muriel, au-delà de Tokyo, en 2021, il y a Eugene, en 2022, des mondiaux aux États-Unis, où vous passez une partie de votre vie. Vous irez jusque-là ?
Absolument, je serai là.
Donc, 2021, 2022, 2023 aussi ?
Je suis pas sûre. Après 2022, je vais voir.
Et Christophe Jousset sera lui sera là jusqu'en 2035 à peu près. La souriante Muriel Aouré avec donc Christophe Jousset. Rugby pour clore ce mondial sport. L'Afrique du Sud a finalement donné sa réponse vendredi. Elle ne participera pas au Rugby Championship, le tournoi organisé cette année par l'Australie, qui n'accueillera donc que la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Ce forfait des champions du monde, qui intervient à deux semaines seulement du début de la compétition, est une déception pour les fans de rugby, mais pas vraiment une surprise. De Johannesburg, la correspondance de Claire Bargelès.
Cela faisait en effet plusieurs semaines que les tenants du titre laissaient planer le doute sur leur participation et les complications du coronavirus les auront finalement poussés à déclarer forfait. Au-delà des difficultés logistiques, les conséquences de la pandémie rendent impossible la mise en place d'une équipe sans prendre de risques avec la santé des joueurs, a détaillé Youri Roux, le président de la fédération. Et c'est surtout le manque de temps de jeu qui explique cette décision. L'entraîneur Jacques Nienaber, arrivé à la tête de l'équipe en janvier, espérait que ses joueurs aient au compteur un minimum de 6 matchs, impossible avec un confinement qui a duré 6 mois dans le pays et un championnat national qui a repris seulement la semaine dernière. Quant au groupe des Springboks, leur dernière confrontation avec une autre équipe remonte à la Coupe du Monde et ils n'ont depuis joué qu'un simple match de gala entre eux. Cette décision aura aussi un coût économique pour la fédération sud-africaine qui a déjà dû se serrer la ceinture alors que 60 000 euros ont dû être économisés sur le budget de cette année. Claire Bargelès, Johannesburg. pour RFI.
Et le premier match de ce rugby championship, ce championnat de l'hémisphère sud, donc, sans Springboks, ce sera le 31 octobre, Australie-Nouvelle-Zélande. Les Sud-Africains, eux, ont maintenant comme objectif leur future rencontre avec les Lions britanniques et irlandais en 2021. Un peu de tennis, tiens, pour terminer, il nous reste quelques secondes. Tournoi de Saint-Pétersbourg remporté cet après-midi par Andrei Rublev, le russe, qui sera 8e au classement mondial ce lundi. C'est son 4e tournoi remporté cette année. C'était au dépens, là, cette fois, de Borna Koric, le croate. Et puis à Cologne, c'est Alexander Zverev qui a remporté, lui, le 12e titre de sa carrière en battant le Canadien d'origine togolaise, Félix Auger-Aliassime, 6-3, 6-3. Voilà, vous savez presque tout de ce qui s'est passé dans l'actualité sportive. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Hélène Avril.